Normalement, il y a un PowerPoint. Eh bien, on va continuer de parler ce dont on a parlé pendant la louange ce matin. Je sais que beaucoup d'entre nous sommes investis dans la communauté. Et ce matin, je voulais nous encourager dans ce fait que c'est bien. C'est bien de le faire et on peut faire toujours un peu plus. Un peu plus. Et ce matin, on va simplement prendre quelques minutes pour se plonger dans des textes et nous voir combien l'amour des frères et sœurs les uns envers les autres est central. C'est pas quelque chose que l'on peut mettre de côté, c'est pas quelque chose que l'on peut penser, auquel on peut penser quand on a le temps. C'est vraiment au cœur du message de la Bible et du message de Jésus. J'ai trouvé cette photo magnifique. L'église. Et l'église, c'est pas le bâtiment, je le rappelle pour ceux qui sont de passage. L'église, c'est nous. C'est les gens qui la composent. Et je crois qu'elle représente cet arbre qui est soutenu par cette main. Et cette main, elle a plusieurs doigts. Et chaque doigt est important dans la communauté. Et je veux nous le rappeler ce matin. Je voudrais commencer par deux citations d'un pasteur qui a marqué son temps au siècle dernier, qui s'appelle Dietrich Bonhoeffer. Alors, il a un nom allemand, c'est normal, il est allemand. Mais il s'est battu. Il a vécu pendant cette période triste de la Seconde Guerre mondiale et ça a été une des voix qui s'est dressée contre cette tyrannie et cette horreur. Et voilà ce qu'il a écrit. Dans un monde où le succès est la mesure, ce qui est important, c'est de réussir. Et la justification de toute chose, le succès, c'est ce qui donne le sens à ma vie. Dans ce monde-là, la figure de celui, et là on parle de Jésus, qui a été condamné et crucifié, reste étrangère, et au mieux l'objet de pitié. Ouais, voilà, on peut avoir compassion un petit peu ou pitié. La figure du crucifié invalide toute pensée qui prend le succès pour sa norme. Et je crois que la deuxième partie, ça doit être ce que nous devons aimer. Deuxième citation, l'Église n'est l'Église que lorsqu'elle existe pour les autres, pas pour soi. Ne pas dominer, mais aider et servir. Elle doit dire aux hommes, quel que soit leur appel, ce que signifie vivre pour Christ, c'est-à-dire exister pour les autres. Ça va, vous restez avec moi, vous n'avez pas envie de sortir. Dans notre société, toujours, toujours plus tournée vers soi, vers notre propre bien-être, notre accomplissement personnel, je trouve que cette thématique de vivre pour l'autre, se sacrifier pour l'autre, donner sa vie pour celui ou celle qui est à côté de moi, ça a de plus en plus de mal à résonner, à avoir un écho dans les cœurs. Et force est de constater que parfois même au milieu des communautés chrétiennes, on peut retrouver cette quête à tout prix de l'accomplissement personnel qui va surpasser, qui est plus important que le fait de se donner du don de soi et le service pour l'autre. Parfois mon confort où mon ministère peut devenir si important que j'oublie celui que Dieu a placé juste à côté de moi. J'oublie de servir la communauté où Dieu m'a placé et de me donner à elle. On va prendre le verset dans 1 Jean 3,16. Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Ce matin, s'il y en a qui n'ont pas, je préfère que tu le fasses. Merci. Moi et la technologie, si tu me connais bien, ça fait deux. Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Et si ce matin, tu n'as pas connu cet amour, tu n'as pas connu l'amour de celui qui a donné sa vie pour toi, je t'invite à le connaître. Je t'invite, après le message, à venir devant. Et je veux prier pour toi. Et à tous ceux qui l'ont connu, nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. On a l'habitude de Jean, l'apôtre de l'amour, qui parle avec douceur. Mais là, c'est un impératif. C'est nous devons. C'est pas quand j'ai le temps, c'est pas si j'ai le choix, c'est pas quand moi, ma famille et tout ce que j'ai sera bien, c'est nous devons donner notre vie pour les frères. Et du coup, j'ai envie de rappeler ce matin que Dieu nous appelle, ses enfants, à nous donner les uns envers les autres, à nous aimer tellement que chacun recherche le bonheur de l'autre avant le sien. Jésus a dit, c'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres que le monde verra que vous êtes mes disciples. Imaginez l'impact de ça, de juste ce verset dans un mariage. Combien de mariages seraient restaurés juste parce qu'on applique ce que Dieu te dit. Dans une famille, combien il y a de familles qui sont déchirées aujourd'hui. Avec Pierre, on a constaté ça encore. Les disputes. Et si on appliquait ça? Et dans l'Église, bien sûr. Dieu nous aime d'un amour inconditionnel et qui ne dépend pas de nous ou de ce que nous faisons. Et qui se manifeste concrètement dans son expression la plus forte, avec le sacrifice de Jésus à la croix. Alors que le monde nous pousse et nous pousse, et parfois, je pense qu'on a besoin de réaliser qu'on ne vit pas dans une tour d'ivoire. On ne vit pas en dehors du monde. Et celui qui pense ne pas être influencé par ce que le monde prêche, je pense qu'il se ment à lui-même. Je pense que nous nous mentons. Moi, personnellement, je suis constamment en train d'examiner mes pensées au regard de ce que la Bible me dit. Et combien de fois je m'aperçois que je suis à côté. Je suis à côté et encore à côté. Parce que le standard de la Bible, il est haut pour nous, les amis. Alors que le monde nous pousse à rechercher la richesse, la gloire, le confort, le bien-être, et partout on nous pousse à ça, la Bible, elle nous pousse dans une direction qui est complètement différente. On va prendre 1 Thessaloniciens 2, versets 6 à 8. Nous n'avons point cherché ces... Je dirai après qui parle. Nous n'avons point cherché la gloire qui vient des hommes, ni de vous ni des autres. Nous aurions pu nous produire avec autorité comme apôtres de Christ, mais nous avons été pleins de douceur au milieu de vous. De même qu'une nourrice prend un tendre soin de ses enfants, nous aurions voulu, dans notre vive affection pour vous, non seulement vous donner l'évangile de Dieu, mais encore nos propres vies, tant vous nous étiez devenus chers. Waouh ! Quelle déclaration d'amour ! Trois hommes parlent là. Paul, Sylvain et Timothée. Ces trois hommes avaient développé une affection tellement forte pour la communauté à Thessalonique qu'ils étaient capables d'écrire une lettre qui allait être lue pendant plus de 2000 ans. Est-ce que vous vous imaginez? Et ils ont écrit, dans notre vive affection pour vous, nous aurions voulu vous donner nos propres vies. Waouh! Moi, ça me remue. Ça me remue. Je me dis, Seigneur, où j'en suis, moi, par rapport à ça? Du coup, je nous interroge, et moi avec vous, où en sommes-nous de notre affection pour notre communauté? Quels sont les sentiments qui nous animent les uns envers les autres? Est-ce que la plupart du temps, si je suis honnête, personne, bien sûr je ne demande pas de réponse, hein, répondez à Dieu directement. Mais si je suis honnête, est-ce que la plupart du temps, je pense à moi ou je pense à l'autre, à celui que Dieu a placé à côté de moi dans ma communauté? Est-ce que parfois le moindre petit obstacle, la moindre petite contrariété arrête mon amour envers l'autre? Qu'est-ce qui bloque ma communion avec mon frère et ma sœur? Je crois que c'est des questions qu'on a besoin de se poser et de se reposer. Que puis-je sacrifier dans le rythme effréné de ma vie pour passer plus de temps avec mon frère ou avec ma sœur, pour prendre soin de lui ou d'elle? Qu'est-ce que je peux enlever de mon emploi du temps qui est tout le temps surchargé pour m'occuper plus de ma communauté? Il y a plein de choses à faire dans une église. Il y a plein de choses à faire. L'accueil, les enfants, l'entretien des locaux, le jardin. Il y a plein de choses où je peux m'investir concrètement et qui sont accessibles à tous, au plus grand nombre. Et je veux nous encourager ce matin à replacer à nouveau notre communauté parmi les priorités dans notre vie quotidienne. Vous êtes toujours avec moi? On a vraiment à cœur cela avec les anciens. Le monde va nous entraîner sans cesse dans un rythme où la vie communautaire passe petit à petit. Ça ne se fait jamais du jour au lendemain, mais petit à petit, eh bien, au second plan, et puis au troisième plan, et puis petit à petit, j'arrête de venir à l'église. Vous savez que pendant la période du Covid qu'on a traversé il n'y a pas très longtemps, ça a eu un impact quand même notable sur beaucoup de communautés en France. Soit certains chrétiens ont carrément arrêté de se rassembler et de venir le dimanche, et il y a eu un certain nombre d'églises qui ont fermé à cause de cela. Soit certains ont pris l'habitude de faire autre chose. Voilà, on avait pris des habitudes. On allait au parc, on allait manger avec un tel ou un tel, et on délaisse notre assemblée. Souvenez-vous que l'année dernière, on a dû soutenir la communauté à Alès, si vous vous rappelez. Et en partie, c'était dû à cela, parce que les frères et sœurs de la communauté avaient simplement pas repris le rythme de revenir soutenir la communauté. On va revenir sur l'apôtre Paul, qui est un exemple de sacrifice et de don de soi. 2 Corinthiens 11. Il décrit un peu sa vie. Souvent en danger de mort. 5 fois j'ai reçu des Juifs 40 coups moins 1. 3 fois j'ai été battu de verges. 1 fois j'ai été lapidé. 3 fois j'ai fait naufrage. J'ai passé 1 jour et 1 nuit dans l'abîme. Fréquemment en voyage, j'ai été en péril sur les fleuves, en péril de la part des brigands, en péril de la part de ceux de ma nation, en péril de la part des païens, en péril dans les villes, en péril dans les déserts, en péril sur la mer, en péril parmi les faux frères. J'ai été dans le travail et dans la peine, exposé à de nombreuses veilles, à la faim, à la soif, à des jeûnes multipliés, au froid et à la nudité. Et je me suis arrêté d'aller à l'église. Combien on a d'excuses? Et pourtant, qu'est-ce qu'il nous dit, lui, l'apôtre Paul? Et sans parler d'autre chose, parce qu'il faut bien qu'il s'arrête à un moment donné, je suis assiégé chaque jour par les soucis que me donnent toutes les églises. C'est la conclusion. C'est que non, je ne m'arrête pas. Non, je ne délaisse pas mon assemblée. Parce que je comprends que Jésus, c'est ce qu'il a mis en place pour moi. Je suis assiégé chaque jour par le souci de ma communauté. Est-ce qu'on peut dire ça comme l'apôtre Paul? Servir l'Église et développer un esprit de sacrifice, je crois que ça va ensemble. Et ça veut dire quoi? C'est être prêt à donner plus qu'à recevoir. C'est être prêt à perdre du temps, de l'argent, des libertés, des loisirs pour servir ma communauté. C'est être prêt à peiner, comme l'apôtre Paul, dans le travail plutôt que de courir après mon loisir ou mon confort. En d'autres termes, c'est être prêt à endurer une certaine forme de frustration et de souffrance. Je voudrais nous rappeler ce matin que même si je crois bien sûr au ministère de guérison et de consolation de l'Église, je ne crois pas à une vision du christianisme qui ôte toute souffrance, toute douleur, et donc qui ôterait cet esprit de sacrifice parmi nous. Alors, le monde, qu'est-ce qu'il nous propose sans cesse? Je ne sais pas si vous avez vu Endgame. Bon, maintenant, ça commence à tarder, mais ils repartent sur une autre série. Je ne me rappelle plus combien il a fallu de films pour faire ce dernier film. Je crois qu'il y en a 25, je vais dire à la louche. Je ne suis pas un spécialiste, mais il y en a entre 20 et 30 pour arriver à ce dernier volet. Et tout au long, on nous dépeint des super-héros, les héros de ce monde. Superman, Iron Man, Black Panther. Et comment ils sont, ces héros? Ils vivent comme des pachas dans les beaux quartiers de New York ou dans les palais à eux. Et puis, ils ont toute la force nécessaire pour tout fracasser et tout défoncer. Notre héros à nous, il s'appelle Jésus. Et lui, il a vécu humblement. La Bible nous dit qu'il n'avait plus, à un moment donné, même où poser sa tête. Et comment est-ce qu'il nous sauve? Mais pas en fracassant tout. Il nous a sauvés en donnant sa vie, en mourant à la croix. Alors il faut avouer que ça, c'est dérangeant. C'est vraiment dérangeant pour notre être intérieur. Mais je crois que nous nous identifions à la personne que nous vénérons, notre héros. Et la chair qui est en nous, eh bien, si on est honnête, elle désire un super-héros. C'est pour ça que ça marche si bien, tous ces films. C'est pour ça qu'elles font plein d'entrées. C'est parce que la chair, elle a envie de ce super-héros. Elle a envie d'un guerrier qui défonce tout, qui n'a aucun problème financier, qui a un corps de rêve, comme moi. Quelqu'un qui est satisfait et pas frustré. On n'a pas envie de quelqu'un qui sait se dépouiller, qui paraît faible, qui est prêt à perdre plus qu'à gagner. Quelqu'un qui se sacrifie et qui peut mourir. Ça fait pas envie. Mais rappelons-nous ce matin que notre héros, notre modèle, s'est abaissé. Il s'est humilié, il s'est offert en sacrifice. Philippiens 2. Versets 4 à 8. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts. Qui c'est qui ne s'est pas senti concerné? Parce que Paul, il dit que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Et quel exemple il nous donne? Ayant en vous les sentiments qui étaient en Christ, en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Les amis, nous servons un Dieu qui offre sa vie pour nous. Notre humanité en tant que chrétien voudrait voir Jésus en tant que lion qui rugit et qui détruit le mal. Et c'est ce qu'il est. C'est ce qu'il est. Notre humanité désire être de sang royal, puissant, fortuné, ayant de la renommée. Et si on est honnête, on a tout ça dans le cœur. Mais le lion, eh bien, il est venu sur la terre, on l'a chanté ce matin, comme un agneau. Un agneau qui a été immolé, sacrifié. Il n'y a pas de trop jeune, ça veut dire égorgé. Et c'est lui qui ouvre le livre de vie, qui rachète l'humanité par son sang en donnant sa vie pour ses amis. Apocalypse 5. Dans le livre de l'Apocalypse, Jésus est appelé 27 fois le lion. Non, c'est pas vrai. Je le dis pour l'enregistrement. C'est pas vrai du tout. Il est appelé 27 fois l'agneau. Et vous savez combien de fois le lion? Une fois. Le lion de la tribu de Judas. Une fois. Et d'ailleurs, à ma connaissance, à moins que vous me corrigiez, c'est la seule fois où Jésus est mentionné comme le lion dans tout le Nouveau Testament. Je n'essaie pas, bien sûr, ce matin, de réduire la seigneurie de Jésus. Bien sûr qu'il est roi des rois, qu'il est assis sur le trône à la droite de Dieu. Tout pouvoir lui a été donné dans le ciel et sur la terre. Ce que j'essaie de montrer ce matin, c'est que cette seigneurie, cette puissance de Jésus se manifeste non au travers de la richesse, non au travers de la domination, non au travers de la poursuite de mon confort toujours plus grand. Mais la seigneurie de Jésus se manifeste au travers du renoncement, au travers du sacrifice et du don de soi. Matthieu 20, 26, on arrive à la fin. Ne vous découragez pas. Mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Au cas où on n'aurait pas compris, celui qui veut être le premier parmi vous, eh bien, qu'il soit votre esclave. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Amen. Est-ce qu'on peut dire Amen à la parole de Dieu? Je pense que c'est des choses qui sont importantes de replanter profondément dans nos cœurs. Profondément, pas en surface. Pas laisser ça de côté quand on sort pour retourner vite dans nos trains-trains quotidiens qui vont nous happer encore loin du message de ce matin. En conclusion, j'aimerais dire que ensemble, portons cette valeur du don de soi très haut dans nos cœurs, dans l'Église. Regardons non à cela comme une tristesse, mais comme un sujet de grande joie que de pouvoir se donner pour l'autre, pour la communauté. Que nous nous encouragions à persévérer dedans. Parce que le défi, il est là. D'avoir l'élan du cœur, voilà. Mais de continuer jour après jour là-dedans. Le défi, il est là. Et encore une fois, on a besoin de la communauté pour s'encourager. Car c'est un trésor de grande valeur dans le royaume de notre Père. Donner sa vie, se sacrifier. Il n'y a pas de plus grand trésor, je pense, dans le royaume de Dieu. Marc 10, c'est le dernier texte. Versets 28 à 31. Pierre se mit à lui dire, à dire à Jésus, « Voici, nous avons tout quitté. Et nous t'avons suivi. » Jésus répondit, « Je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, sa maison, ses frères, ses sœurs, sa mère, son père, ses enfants, ses terres, ne reçoivent au centuple présentement dans ce siècle-ci des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres avec des persécutions. Et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Plusieurs des premiers seront les derniers et plusieurs des derniers seront les premiers. Ça, c'est le royaume de notre Père. Si tu donnes, eh bien, tu vas recevoir. Si tu gardes, eh bien, ça va rouiller. Tu vas avoir la teigne qui va venir. Tu vas avoir les petites bêtes qui vont venir manger ton trésor. Mais si tu donnes, alors tu vas recevoir. Ça ne veut pas dire que tu ne vas pas souffrir, parce qu'il y a des petites persécutions qui arrivent. Pourquoi ? Parce que tu es en train de servir Dieu. Mais par contre, il y a le « et » dans le siècle à venir, la vie éternelle. Amen. Et c'est pour ça qu'on donne. C'est pour ça que l'on se donne, parce qu'on est convaincu que le siècle à venir, il est déjà là. Avec les anciens et les diacres, nous avons soif de voir une communauté qui recherche à s'engager toujours plus, qui se met au service les uns des autres, qui prend soin des personnes et du lieu dans lequel Dieu nous a placés. Je terminerai par cette dernière question. Est-ce que vous avez la même soif que nous? Est-ce que vous avez cette soif-là de voir notre communauté s'engager les uns envers les autres et envers notre lieu? De tout cœur. On relit juste le verset central. Si on retient celui-là en partant, c'est bien. Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Amen.